Anna Gavalda, La vie en mieux, le dilettante. On vous retrouve et seulement 5 mois après Billy. Pourquoi aussi vite?
Mais pourtant, il me semble que j'avais bien prévenu mon monde, parce que j'avais dit au moment de Billy, attention, Billy n'est qu'une histoire parmi un gros recueil de nouvelles que j'ai rendu à mon éditeur. Donc il y a même matière à faire un troisième livre très vite. Là.
Dans combien de temps?
Mon éditrice allemande, elle parle de la salami tactique, mais c'est pas du tout ça. Hein.
Par tranche, par rondelle, voilà. Du Gavalda en rondelle.
Non, mais voilà, mon éditeur avait commencé par la fin, c'était Billy, il avait adoré Billy, il trouvait qu'il fallait lui faire son écrin à elle seule, et j'étais bien d'accord, mais j'avais deux autres histoires de jeunes gens du même âge que Billy, à savoir 25 ans, et je voulais absolument qu'ils vivent très vite leur vie après elle, parce qu'il me semblait qu'à eux trois, Billy et les héros de ce recueil de deux longues histoires qui s'appellent Yann et Mathilde, et qui donnent d'ailleurs leur nom, leur prénom au titre de ces deux histoires, Billy, Yann et Mathilde, je trouvais qu'à eux trois disaient beaucoup de choses de notre société d'aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que c'est avoir 25 ans en 2014 dans un monde où on est à la fois très gâté et très nu. Quoi. Voilà, des petits jeunes gens bien comme il faut, qui ont tout et qui n'ont rien.
C'est ce que j'allais dire, c'est un peu ce livre, ça exprime une espèce de mal du siècle finalement, de mal de l'époque.
Qu'est-ce que c'est le... Ouais, j'imagine, c'est parce que c'est nous, petits occidentaux, trop bien nourris, trop gâtés, donc en fait voilà, c'est compliqué, et surtout j'imagine pour nos enfants que nous avons beaucoup aimé, beaucoup gâté, et... En tout cas, en plus élevé dans un certain goût, une certaine sensibilité, et un goût de la culture, etc. C'est vrai que voilà, c'est difficile pour eux. Ils se disent, bon, c'est la vieille Europe, quoi. Que font des jeunes gens dans la vieille Europe? C'est ça le sujet du livre, en toute simplicité. En fait, c'est un essai sociologique très sérieux.
Alors, j'allais y venir. Ça allait être justement une de mes questions sur cet aspect sociologique, mais on l'abordera plus tard. Alors, Mathilde. Donc on peut comprendre que finalement ça n'aille pas si bien pour elle parce que finalement la vie lui a réservé de sales coups. Yann, on ne comprend pas sur le moment parce qu'il voilà, il a eu une enfance heureuse, jusqu'à présent. En apparence, tout est allé plutôt bien dans sa vie. Où est la racine de son mal-être?
La racine de son mal-être, elle est très simple. Déjà, c'est qu'il n'a pas de boulot. Il a fait des études et il n'a pas de boulot. Et ça doit être très difficile à vivre, j'imagine. Et ça arrive à beaucoup, beaucoup de mes jeunes compatriotes, à savoir, vous êtes bon en primaire, vous êtes bon en secondaire, vous passez le bac, vous faites de bonnes études, vous êtes bien sérieux, bien élevé, vous ne crachez pas par terre, vous ne jetez pas vos papiers par terre. Et tout et tout. Et quand arrive le grand saut, dans le grand bain, on vous dit, eh ben non, pas pour toi, il n'y a pas de place pour toi, voilà. Ou alors des stages, pas payés bien sûr, et donc il accumule les stages non rémunérés. Et il se rend compte que c'est pas possible, quoi. Il est dans un cul-de-sac, on l'avait pas prévenu que dans la branche qu'il avait choisie, il n'y avait pas tellement de travail, ou en tout cas pas pour des gens comme lui qui sont doués, mais pas archi-doués, puisqu'il a fait des études de design, et comme il le dit lui-même, voilà, où t'es un visionnaire, où tu n'es rien dans le design, et absolument, à mon avis, il a tout à fait raison. Et donc, il remet en cause complètement tout ça, quoi. Ses études, sa sagesse. Il remet en cause sa docilité. Voilà, c'est pour ça que c'est un personnage très intéressant. Mais si on creuse bien, et on creuse bien, puisque j'ai vraiment mis un stéthoscope, j'en sais rien, en tout cas, un microscope sur ce garçon, un stéthoscope d'ailleurs, puisque c'est surtout son cœur qui m'intéresse, on se rend compte qu'en fait, et c'est toujours là d'où vient le mal, c'est que c'est dans sa vie sentimentale que ça ne va pas. Et quand la vie sentimentale ne va pas, quand bien même il aurait intégré... les plus grandes écoles et le meilleur job qui soit avec un superbe salaire, etc. Ça ne changerait rien à l'affaire, à savoir que la jeune femme avec laquelle il partage son lit chaque soir, il est devenu un peu indifférent. Or, son problème, c'est qu'il est trop gentil pour le lui dire. Et en fait, voilà, c'est une histoire qui dit à peu près comment fait-on quand on est trop docile et qu'on n'a pas de boulot et comment peut-on se rebeller alors qu'on n'a aucune arme pour. Et en plus, comment fait-on pour quitter quelqu'un quand on est très gentil et qu'on n'a pas envie de faire de mal à quiconque et plus encore avec la personne qui partage votre vie. C'était déjà le sujet de « Je l'aimais ». Vous voyez, moi, je reste très basique dans mes sujets, dans mes thèmes. C'est toujours la même chose.
Les thèmes gavaldiens ou gavaldesques, oui. Alors, en fait, donc, ces deux personnages prennent le risque de se tromper de vie plutôt que de n'en vivre aucune. C'est ça, il y a un moment donné où il faut... il faut réagir, il faut sortir de l'impasse, du malheur que l'on est en train de se construire soi-même.
Mais là encore, je pense que bien y regarder, c'est vraiment le grand sujet de tous mes livres. Si vous prenez n'importe lequel de mes livres, à un moment donné, mes personnages sont confrontés à une, enfin, sont à la croisée, se trouvent à la croisée des chemins et doivent choisir. Voilà. Est-ce qu'ils continuent une vie qui leur convient pas vraiment, et puis qui se love comme ça dans un certain confort un peu mélancolique puisqu'ils ne sont pas vraiment heureux, ou est-ce qu'ils prennent le risque de prendre des risques, donc de sacrifier probablement une part de confort. Dans Je l'aimais, c'était passé pour un salaud. Dans Ensemble, c'est tout, c'était pour Camille prendre le risque de se remettre à dessiner, donc de se remettre en danger, d'accepter certaines disparitions, certaines maladies, etc. De tous mes personnages, la consolante, c'est pareil. Charles, l'architecte, à un moment donné, doit faire le choix de faire autrement son métier, sa vie, sa façon d'aimer les gens. C'est toujours le grand sujet. Il me semble... le seul sujet intéressant dans nos vies à tous.
Ça passe évidemment très souvent par les rencontres.
Bien sûr, mais je pense que cette rencontre n'est pas forcément physique. Quelquefois, c'est la rencontre avec une œuvre d'art. Quelquefois, c'est la rencontre, que sais-je, avec Dieu, avec une idée de Dieu, ou dans le cas de Billy, avec une étoile. Et il faut à un moment donné, voilà. Alors peut-être, en fait, la vraie rencontre, c'est avec soi-même, quoi. Il faut se confronter à l'idée que l'on se fait de soi. Et quel est son véritable appétit de bonheur ? Est-ce qu'on a les crocs ou est-ce qu'on peut se satisfaire d'une vie un peu terne ? Mais il y a plein de gens qui arrivent, hein, mais évidemment, ça ne fait pas de bons livres, ces gens-là. Moi, je préfère ceux qui ont les crocs.
La vie en mieux, à un moment donné, vous aussi, vous avez été amené à choisir.
Mais on l'est tous, je crois, mais... on l'est tous, même encore aujourd'hui, avant que cette émission commence, vous me faisiez remarquer que je ne faisais plus du tout de promotion à part venir vous voir vous. Et voilà, pour moi, c'est peut-être ça aussi, la vie en mieux, c'est de me dire, voilà, ça fait 15 ans que je me force à parler dans des micros. Or, vous êtes mieux placé que personne pour savoir dans quel état des fébrilités, d'émotions ça me met, et d'une émotion qui n'est pas feinte. Voilà, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc voilà, peut-être moi aussi, j'arrive à un moment de ma vie où je me dis, tant pis, je vendrai moins de livres, mais... je ne ferai plus de promotion parce que fondamentalement, je n'aime pas ça. Quoi.
Mais avant, est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, il y a eu comme ça une espèce de tournant où il a fallu choisir une vie en mieux ? Est-ce que le passage à l'écriture a été une vie en mieux ? Parce qu'il y avait une vie avant l'écriture.
Oui, mais évidemment que si ces sujets me tiennent tellement à cœur, c'est que j'ai l'impression de les connaître un peu. C'est évident que moi, j'étais professeur et qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je me mette, pour me prendre au sérieux dans l'écriture, chose que je n'arrive toujours pas à faire d'ailleurs, ce serait peut-être mieux de travailler sans filet, donc de donner ma démission. Et je me souviens à l'époque, très gentiment, la dame du rectorat m'avait dit, mais mettez-vous, prenez un congé sabbatique, je ne sais plus comment on disait. Ce sera mieux, comme ça, si ça ne marche pas, l'écriture, vous pourrez reprendre votre poste, etc. Et je me souviens très bien m'être dit, n'avoir même pas hésité, c'était très instinctif, en me disant, non, mais à un moment donné, il faut sauter, quoi. C'est vraiment comme pareil pour mes personnages, c'est le sujet du livre. À un moment donné, il faut y aller. Voilà, tant pis si on se fait mal, si on se cogne, si l'eau est froide, il faut y aller. Il faut voir ce qu'il y a de l'autre côté, quand même, ça vaut le coup. Mais peut-être aujourd'hui, je suis d'autant plus... vindicatif que j'ai des enfants qui ont 18 et 15 ans, et maintenant c'est voilà, ça m'amuse je trouve ça important de parler au nom de leur génération. On est toujours en train de dire les jeunes ceci, les jeunes cela, les jeunes n'ont pas de boulot, les jeunes blabla, les pays émergents. D'ailleurs, Yann le dit très très bien, il y a une page très dure sur l'éducation nationale en France, etc., et sur le fait que on forme, c'est très anxiogène. Et à un moment donné, aujourd'hui, on a l'impression que les petits Chinois ou les petits Indiens vont tous nous manger. Et enfin, mes personnages, à un moment donné, ils ont cette espèce de sursaut d'énergie en disant, non, personne ne va me manger parce que moi-même, j'ai très faim.
Et alors, peut-être que justement, tout à l'heure, vous évoquiez l'aspect sociologique, et peut-être qu'il n'y a jamais eu un livre d'Anna Gavalda aussi politique, je dirais, là, sur la sous-qualification. Bon, Yann est hyper diplômé, et puis il se retrouve dans un boulot qui ne correspond pas du tout à ce qu'il a étudié, la précarité au travail, la colocation, parce que là aussi, par manque de moyens, on est obligé de partager. partager un appartement, l'omniprésence des réseaux sociaux. Enfin voilà, je dirais tout ce qui, en quelque sorte, altère, abîme nos vies et la vie de ces jeunes générations est là, très présent dans le livre. Ça, c'était quelque chose que vous vouliez mettre dans La vie en mieux dès le départ.
Mais tout ça était déjà dans Ensemble, c'est tout. Hein, la colocation. Oui. C'est vrai. Camille, elle était diplômée des
Beaux-Arts. C'est-à-dire que là, c'est peut-être plus apparent parce que les deux histoires sont beaucoup plus resserrées.
Oui, puis comme vous dites, il y a justement les réseaux sociaux, etc., qui sont apparus. Peut-être qu'il y avait moins cette dureté, cette apparence.
Les faux-semblants aussi.
Voilà. Mais moi j'ai l'impression que tous les thèmes sont déjà là depuis toujours. Et même si vous prenez les nouvelles de Je voudrais quelqu'un m'attendre quelque part, je me souviens d'une nouvelle qui s'appelait Clic-Clac, qui était déjà la colocation. Mm-hmm. Déjà, je me souviens le personnage de Clic-Clac qui faisait déjà un boulot moins intéressant que ses qualifications. Mes personnages sont toujours un peu les mêmes, ils sont toujours un peu perdus et ils sont toujours obligés de se dire à un moment... C'est ça que je trouve très mignon chez eux, c'est qu'à la fois ils sont très tendres et très lucides, beaucoup d'autodérision, et à un moment ils se disent « mais ça va pas, là je me suis fourvoyée, il faut que je change parce que... » Pas je mérite mieux que ça, mais j'ai le goût de mieux que ça, la vie en mieux.
Anna Gavalda radote alors.
Exactement. Et j'en ai sous la pédale. J'ai 10 ans d'écriture qui m'attendent. Je sais très bien ce que je vais faire. Et c'est encore exactement les mêmes thèmes. Voilà, je préviens déjà.
Mais plus sérieusement, pourquoi ce thème, justement, vous intéresse autant, j'allais dire, parce que vous obsède, comme ça, d'essayer d'aller vers une vie en mieux?
Mais c'est pas moi, c'est tout le monde.
Oui. Ah, quand même. Chez vous, c'est très présent. Mais ça renvoie aussi à des expériences personnelles. Une profonde insatisfaction, malgré le succès aujourd'hui. Ou tout à l'heure, vous évoquiez la difficulté de vos relations avec tout ce qui relève de la promotion, les médias.
Vous voulez que je m'allonge sur votre divan, Bernard?
Oui, allez-y.
D'abord, je pense que... je sais que le mot artiste est trop grand pour moi. J'ai l'impression de mettre un très gros manteau, très lourd. Et il y a les manches qui dépassent, mais j'en suis. C'est-à-dire que je ne paye mes factures qu'avec mes rêves. Et donc, par définition, je suis une artiste. Et les artistes ne sont jamais, jamais satisfaits, je pense. Sinon, ce ne serait pas des artistes. Je pense que ça ne va jamais. On veut toujours mieux, différent. On voulait toujours faire mieux. Ce n'est pas ça qu'on voulait dire. Voilà, donc je pense qu'en effet, je suis une pure dans ce sens. Voilà, ce succès dont vous parlez ne m'a absolument pas ni rassurée, ni confortée, ni rien. Je me sens plus fragile qu'à mes débuts aujourd'hui. Et cet appétit pour mieux, et ce goût du changement, et ce goût des rencontres, je pense vraiment qu'on l'a tous, et certains l'ont étouffé. Mais on l'a tous.
Parlons de ces rencontres. Il y a notamment dans l'histoire de Yann, un couple, là aussi, qui a déjà fait comme ça, sous d'autres formes, d'autres noms, des apparitions dans vos livres précédents.
Le couple idéal.
Isaac et Alice, les Moïse et leurs deux filles. Et alors, le couple idéal, moi, ce qui me frappe, c'est que ça passe notamment... alors, bien sûr, il y a de l'amour entre ces deux-là, mais aussi beaucoup de fantaisie. C'est indispensable à la réussite d'un couple.
Je pense quand même quand on... Et il le dit d'ailleurs, Isaac, il dit, mais le succès du bonheur, c'est de rire ensemble. Mmh. Et je crois ça. Mais on le sait, hein, les garçons qui font rire, les filles ont beaucoup de succès. On déchante après quelquefois, mais en attendant, on a beaucoup ri. Non, c'est bien de rire. Je trouve qu'on rit pas assez. Mais oui, ces phrases si jolies, là, Voltaire qui dit « il est poli d'être gay », je trouve ça très joli. Et puis même cette phrase si belle qu'avait dit Trintignant quand il avait reçu son César, sa palme d'or à Cannes, je crois. Hein. Il avait cité Prévert, « essayons d'être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple voilà. ».
Le rire, justement, l'humour, on le retrouve toujours dans vos livres. Il passe à la fois par la langue, l'écriture, mais aussi par des notations, des petites scènes, des anecdotes.
Est-ce que je vous ai fait ricaner, Bernard ?
Plein de trouvailles. Ah ben, beaucoup. Ah. Où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées ?
En fait, voilà, ce ne sont jamais des rires francs. Je ne suis pas une gag woman, mais j'ai l'impression, j'espère. Moi, j'écris le sourire aux lèvres et j'espère vraiment que mes lecteurs me lisent le sourire aux lèvres, parce qu'il me semble, que, voilà, dans tous mes livres, quand même, on sourit tout le temps, quoi. Enfin, moi, je trouve ça... Je suis très vaniteuse, mais moi, je me fais rire quand j'écris. Alors, je me fais pleurer aussi à certains moments, quand c'est émouvant. Là encore, en vous attendant, tout à l'heure, j'écrivais là, dans le restaurant en face, j'écris une scène qui me faisait un peu pleurer, quoi.
Mais alors, en même temps...
Mais sinon, je me fais rire, voilà, je me fais rire à un moment donné. Voilà.
Mais c'est en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure, qu'écrire, ça restait aussi... une incertitude, une souffrance.
Ah non, c'est le seul, justement, c'est ça qui est bien. C'est que c'est le seul moment de certitude. Enfin, moi, dans ma vie, c'est le seul moment où je suis vraiment bien, c'est quand je travaille. C'est tout le reste, c'est tout autour que ça, d'accord, que c'est friable.
Donc, c'est quand vous êtes dans l'acte voilà, d'écriture.
C'est tout autour que c'est bancal, mais quand je suis à ma table, je suis bien calée. Je ne crains plus rien.
Il y a une curiosité là, j'aimerais bien que vous essayiez de la combler. Jean-Baptiste, il est cuisinier et la nourriture est très présente, en particulier dans l'histoire de Mathilde. Alors là aussi, c'est un tropisme gavaldien. On retrouve régulièrement des personnages de cuisiniers. Comment ça se fait, Anna Gavalda ? D'où vient cet appétit ?
L'histoire de Yann, c'est avoir 25 ans, être garçon et comment on s'en sort un peu sur le plan professionnel, alors que l'histoire de Mathilde, c'est avoir 25 ans, être fille et comment on s'en sort sur le plan sentimental. En ce sens, je manque complètement d'imagination. C'est vraiment les filles viennent de Vénus et les garçons de Mars. Et voilà, c'est désolant, mais j'en suis. C'est le gros cliché. Mais ça m'intéressait. Et ce qui m'intéressait dans Mathilde, et l'histoire de Mathilde dit ça, c'est comment fait-on aujourd'hui avec toutes ces histoires d'amour qui naissent, vivent et meurent par texto, tout cet amour virtuel, nul et non avenu, tous ces sentiments de connexion, jamais vrai, jamais sensuel, jamais charnel. Et donc elle est là, elle souffre de ça. On sent qu'elle vraiment elle est vraiment une victime des réseaux sociaux et de leurs effets secondaires. Et donc elle tombe amoureuse d'un garçon qui a pour lui qu'il a l'air très vivant, un peu grassouillet et qui n'a pas de téléphone portable. Donc elle est obligée pour le retrouver. Voilà, de le chercher physiquement, c'est ça qui m'intéressait. Tout d'un coup, il n'y avait plus de Facebook possible, il n'y avait plus de tweets, il n'y avait plus tout ça. Il y avait « ce garçon me plaît, je cherche sa bidoche ». Voilà.
Mais le cuisinier, c'est un fantasme chez vous ?
Ah, sûrement. Non, il n'y a pas besoin de m'allonger pour... Sûrement, parce que moi, je ne fais pas du tout la cuisine, mais pourtant, je suis assez gourmande. Donc l'idée d'être nourrie...
Ça.
Je pense qu'entre le cuisinier et le personnage d'Isaac, là, j'ai fait ma fiche mythique. Parfaite.
Les émoticônes. Alors là, il y a un passage moi, qui a fait mon bonheur, parce qu'on peut être soi-même utilisateur d'émoticônes. Et puis, c'est vrai que quelque part, on a mauvaise conscience. On se dit, c'est quand même une solution de facilité, une espèce de paresse. Quoi.
C'est à ça que servent les livres. Hein. C'est à mettre des mots sur des choses qu'on pense, mais qu'on n'aurait pas su dire ou qu'on n'aurait pas su formuler ainsi. On est tous un peu penauds quand on envoie des petits sourires ou des petits visages, des petites grimaces. À l'aide de parenthèses et de tirer sur nos téléphones, mais c'est bien pratique. Mais en même temps qu'on le fait, on se dit quand même, c'est réducteur, quoi. Et Yann le dit pour nous tous, il dit, mais réduire toutes les émotions à trois petits signes de ponctuation comme ça, c'est ridicule.
Je hais ces trucs de feignants. Au lieu d'exprimer un sentiment, on l'expédie. On appuie sur une touche et tous les sourires du monde sont pareils, les joies, les doutes, le chagrin, la colère, tout à la même gueule. Tous les élans du cœur se retrouvent réduits à 5 ronds hideux. Putain, quel progrès.
Les fameux smileys, donc. Mais ce qui est mignon, c'est ça que j'aime bien chez mes personnages, c'est qu'en même temps, je suis persuadée qu'il le fait aussi. Quoi. Il sait qu'il en est, quoi. Mais il reconnaît, il a la lucidité de dire que voilà, il pourrait faire mieux, mais voilà. Il connaît son époque avec ses travers, mais justement, il lutte. Il lutte. D'ailleurs, il dit après que il lui dit « je t'embrasse » et il met l'apostrophe et il dit « mais y en a-t-il encore beaucoup des garçons aujourd'hui qui mettent les apostrophes ?» C'est joli, ça. Hein.
Alors, il y a des, je trouve, enfin, je ne sais pas comment qualifier ça, mais des espèces de morceaux de bravoure un peu dans ce livre, notamment la lettre de l'écrivain qui a été un amant de Mathilde.
Alors, vous êtes le premier à m'en parler, ça me fait plaisir. Alors, est-ce que c'est par pudeur ? Personne ne m'en a parlé avant vous. Alors que je trouve qu'en effet, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire.
Oui, bah, ça se sent.
Ça se sent, et même je pense que c'est intraduisible parce que je l'ai beaucoup écrite au son. Enfin, pour moi, c'est presque plus une composition musicale que de l'écriture. Là, pour moi, c'est de la poésie en prose, en toute simplicité. Je suis très contente que vous m'en parliez, parce que c'est une lettre qui est censée mettre l'eau à la bouche. Quelque chose de très sexuel sans qu'il n'y ait jamais aucun mot qui ait attrait à la sexualité. Et tout passe donc par le champ lexical. Je parle comme l'ancienne professeure de français. Tout passe par le champ lexical de la gastronomie française. Et c'est heureux.
On se dit que d'ailleurs, ça ne doit pas être simple, une relation amoureuse avec un écrivain, quand on voit ce qui est arrivé à Mathilde.
Ah oui, c'est bien ça aussi.
C'est toujours, peu biaisé, si je puis dire. On se demande toujours si l'autre n'est pas en train de nous instrumentaliser ou nous vampiriser. Mais est-ce qu'à l'inverse, c'est compliqué ? Alors là, on est de plus en plus...
Ouais, vous me cherchez, vous me cherchez aujourd'hui.
Est-ce que ça n'est pas compliqué dans l'autre sens, justement ?
Tout
quand
est compliqué.
Quand on est soi-même écrivain, d'avoir une relation simple
Qu'est-ce qui est compliqué ? Ce qui est compliqué, c'est ce besoin de solitude que nous avons.
Parce qu'on est toujours vu comme, justement, dans le regard de l'autre, on est toujours vu aussi comme,
Un prédateur potentiel.
Ou un prédateur possible.
Oui, c'est compliqué. Passons à la question suivante. Bon. Non, c'est vrai, c'est compliqué, mais heureusement, j'ai cette chance de pouvoir inventer des histoires d'amour et des personnages extraordinaires. Donc, à la rigueur, je me dis, bon, moi, c'est vrai que je me sens un peu... Je trouve que je suis très seule au monde, mais je pense que c'est vraiment lié à ce métier d'extrême solitude. Je ne crois pas qu'il y ait un autre métier au monde qui soit plus solitaire que celui d'écriture. Même le peintre, il a des modèles ou de la matière ou des couleurs. L'écrivain, il n'a rien, quoi qu'un clavier d'ordinateur, c'est très, très âpre. Mais heureusement, je sais bien m'entourer. Voilà.
Il y a un autre moment très fort, j'ai trouvé, c'est un peu l'inverse. D'un côté, on a une déclaration d'amour par une lettre envoyée à Mathilde, et puis de l'autre, il y a la déclaration de rupture de Yann. Alors là, je me dis, on est tout à fait dans l'univers de Cavalda. Enfin, comment une idée comme ça, à la fois aussi saugrenue et en même temps poétique, peut lui venir à l'esprit? Yann enregistre cette déclaration de rupture sur le magnéto Fisher-Price d'une des filles de la fameuse famille Moïse.
Ah oui, j'adore cette scène parce qu'il sait qu'il fait des fautes d'orthographe et qu'il se dit, s'il lui laisse une lettre de rupture, il connaît sa copine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il la quitte, il le lui dit. Elle n'est pas très tolérante, quoi. On sent que c'est une fille qui ne pardonne pas. Et donc, il se dit, je vais enregistrer. Mais comment enregistrer, quoi? Donc, il se souvient qu'il avait vu un petit magnéto Fisher-Price couvert de stickers de Charlotte aux fraises dans la chambre de la petite fille de l'appartement du dessus, et donc il récupère le magnéto et il lui fait une cassette. D'ailleurs, c'est mignon parce qu'il a du mal à retrouver une cassette en 2014.
Bah oui, c'est devenu rare aujourd'hui.
Et il lui laisse ça et il lui dit des choses. Voilà, il lui dit que, comme il peut pas lui dire je ne t'aime plus, il trouve des prétextes un peu maladroits mais très précis que je trouve très mignon pour lui faire comprendre que ce n'est plus possible la vie entre eux, et notamment qu'elle ne commande jamais de dessert sous prétexte qu'elle est au régime et qu'elle lui mange toujours le nez de ses gâteaux. Je trouve ça très mignon, ça. Il lui dit, tu manges toujours le nez de mes flans ou de mes tartes, alors que le nez, c'est le meilleur du gâteau.
On peut parler de Billy.
Oui.
Il y a eu des critiques très, très dures, voire méchantes. Et puis, c'est vrai que ce livre a enregistré des ventes peut-être moins importantes que ce que vos livres ont l'habitude d'enregistrer. Avec un peu de recul, quel bilan vous tirez de l'expérience de Billy?
Je ne lis pas les critiques. Donc, oui. Voilà, évidemment, il y a toujours de bonnes âmes pour me rapporter qu'il y a eu telle ou telle critique méchante. Mais en fait, ça m'est complètement égal.
C'est vrai, ça?
Ouais.
Ça ne fait pas un peu
mal? Non, tout va ensemble. Hein. J'aime pas la promo, mais j'aime pas, mais je m'en fous des critiques. Vous voyez, c'est très logique tout ça. Tout ça, mais totalement différent. Non, c'est vrai, je sais pour qui j'écris, quelques personnes que j'aime. Et c'est la vie de ces gens-là qui m'intéresse. Après, moi, je
oui, mais quand la rencontre avec le public a l'air de se faire d'une manière moins ample que d'habitude, est-ce qu'on se pose des questions?
Je me pose absolument des questions sur tout dans la vie, sauf sur mon écriture, parce que sinon, alors, je ne vis plus, quoi. C'est vraiment le seul endroit de ma vie où j'ai un peu confiance en moi. Et non, Billy, je la trouve absolument merveilleuse. Je ne regrette rien de Billy. Je ne retirerai pas un seul de ses jurons. Je continue de persister à penser que c'est la plus élégante, la plus noble de tous les personnages que j'ai jamais inventés. C'est une reine, Billy. C'est mieux qu'une reine, c'est une princesse. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite gamine. Et j'avais écrit sur le rabat à l'époque, sans savoir en effet à quel déluge je m'attendais, que c'était la plus jolie chose qui me soit arrivée depuis que j'écris. Et probablement, à l'époque, je ne savais pas très bien de quoi je parlais. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire, grâce à Billy, j'ai pu rendre mon dossard de première de la classe, j'ai pu reposer mes couronnes de laurier. J'ai pu juste me retirer de la course, ne m'attendais plus dans les meilleures ventes de best-sellers, ne m'attendais plus nulle part, je trace ma route. Les ventes ne m'ont jamais intéressée, je l'ai toujours dit, on ne m'a jamais cru du temps où je vendais beaucoup, et maintenant on peut me croire, ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout ça mon problème. Mon problème, c'est de donner vie à des personnages aussi beaux que ceux qui sont dans le livre que vous tenez entre vos mains.